Frère Franck. Merci. Aujourd'hui, nous pourrions ensemble entonner ce cœur, crois seulement, pour que Dieu puisse se manifester. Nous devons croire d'abord. Nous avons la grâce de croire, et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, des hommes sont venus pour voir Jésus. Mais pas seulement pour le voir, mais les malades sont venus, les fatigués et chargés sont venus, et ils voulaient pas seulement le voir de manière extérieure, ils voulaient le voir dans leur guérison et dans ce dont ils avaient besoin. Chantons « crois seulement ». Ça, nous le croyons dans la réalité. Il conserve sa parole et il a donné la promesse que si en son nom nous sommes réunis, alors il est parmi nous. Alors il parle avec nous et il sauve, il guérit, il bénit, il libère et il parle aussi avec nous sur, en ce qui concerne les mystères du royaume de Dieu. Et alors, les choses vont pour nous comme avec les disciples d'Emmaüs, alors que le Seigneur parlait avec eux de Moïse, des psaumes et des prophètes. Et ainsi, après qu'il leur avait révélé toutes ces choses et annoncé ce qui était écrit et montré ce qui s'était accompli. Vous savez que ces réunions sont vues et entendues dans le monde entier. Nous avons des salutations du monde entier, en commençant avec la Finlande, la Danemark, jusqu'au sud de notre continent. Et nous sommes aussi réunis ici aujourd'hui de différents peuples, langues et nations pour écouter la parole du Seigneur. Nous avons des salutations de toute l'Afrique, de la République du Congo et de partout jusqu'en bas, à Kapstadt, Nairobi, Bukavu, Bénin, de partout, des frères, eux, nous ont remis des salutations pour que nous les transmettons au peuple. De Burma, des Philippines, de l'Inde, de partout dans le monde entier, et nous aussi d'ici, nous voulons saluer tous cordialement. Nous remercions Dieu de ce que les frontières se sont ouvertes. Nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons encore venir pour écouter sa parole. Et nous avons compris ce que le prophète disait, que le jour viendra où Dieu enverra une faim parmi le peuple. Pas une faim d'après le pain naturel, mais une faim d'écouter les paroles du Seigneur. Et nous avons aussi compris que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et nous avons ici aussi, par la grâce de Dieu, les Saintes Écritures dans sa forme originale, et nous avons la grâce de lire dans ce livre et directement de laisser ainsi parler Dieu avec nous, car il est écrit dans Ésaïe 55, il n'est pas écrit que le prophète ou bien que le prédicateur ne reviendra pas vite, mais Dieu ici dit que c'est la parole qui sort de ma bouche. C'est elle qui accomplira toute sa volonté en ceux qui ont cru et qui ne reviendra pas vite. Ce n'est pas le prédicateur qui peut produire quelque chose, mais c'est la parole, c'est Dieu par sa parole sous l'action du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que nous avons la grâce de revenir à la parole originale. Et personne n'a le droit de nous faire des reproches en disant que nous ne pouvons pas supporter les interprétations. Mais ça, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas supporter une interprétation, car la parole de Dieu, dans sa forme originale, nous ne pouvons pas supporter et permettre qu'elle soit interprétée et qu'il lui soit donné plusieurs significations. Nous avons la grâce de croire dans ce que Dieu a dit, c'est ainsi que Dieu pourra aussi le confirmer. Tous nous savons, particulièrement depuis le 3e et le 4e siècle de notre temps, de notre calendrier, nous avons eu des soi-disant pères de l'Église qui ont interprété les Saintes Écritures, toujours de nouveau interprété les Saintes Écritures. C'était des conciles qui ont eu lieu partout. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église savent comment est-ce que de nouveau ils ont toujours eu à formuler ce qui avait été formulé, par exemple, à Nicée. N'était pas encore complet pour eux. Ils ont encore continué à le formuler à Chalcédon. Ils l'ont encore formulé à Éphèse. Dans tous les différents conciles, ils ont formulé et ils ont décidé ce qu'ils doivent avoir comme confession de foi pour la chrétienté. Et ensuite, nous prenons le droit de dire, oubliez tous ces conciles, toutes ces formulations et toutes ces confessions de foi religieuse et revenez à la parole, à cette confession de foi unique, telle qu'elle est transmise et écrite dans les Saintes Écritures par les prophètes eux-mêmes, par les apôtres eux-mêmes et par le Seigneur lui-même. À cette remarque que tout a été interprété, et que seulement quelques points soient mentionnés, par exemple Matthieu 16, verset 16 jusqu'au verset 18, là-bas, Pierre a eu la révélation puissante sur notre Seigneur, et ensuite le Seigneur dit, je te dis, tu es Pierre. Et là, il est écrit le mot Pétros. Et ensuite, le Seigneur continue sur ce roc. Et là, il est écrit Petra et pas Pétros. Et là, il n'est pas écrit sur toi, je bâtirai mon église, mais sur ce roc. Ou bien sur toi, je bâtirai mon église. Non, mais il est dit, tu es Pierre. Mais sur ce roc, sur Pétra, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ est le rocher. Nous allons à cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 11. Là, ici, Paul dit, j'ai placé le fondement parmi vous et il n'y a pas un autre fondement que quelqu'un pourrait placer en dehors de celui qui a été placé. Et avec cela, nous allons dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 20 et 21. édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alors, il s'agit de revenir à la parole, à ce que le Seigneur a dit, et de sortir des incompréhensions et de revenir, d'aller à d'autres versets bibliques pour justement comprendre ce que le Seigneur a dit de la bonne manière. Nous avons, c'est ainsi que je l'espère, en cet endroit compris que nous ne prenons pas le droit de prendre un seul verset biblique et ensuite de l'interpréter selon que nous le comprenons, mais avec un verset biblique. Nous devons aller de verset biblique en verset biblique pour ainsi recevoir la signification de ce verset biblique que nous avons pris au commencement et de toutes les paroles de Dieu pour que ainsi, par l'éclaircissement qui vient d'en haut et par la révélation de l'Esprit, par la grâce de Dieu, nous comprenions la parole de Dieu. Tout est placé sur le fondement de la révélation qui vient de Dieu. Et cela reste ainsi, tel que déjà hier, nous l'avons entendu de 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous l'avons lu. L'homme naturel n'accepte pas, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu vient par l'Esprit. L'homme naturel n'a pas accès aux choses spirituelles. Tout ce qui lui reste, ce sont seulement des incompréhensions. Mais la révélation vient réellement seulement de Dieu et cela sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Jean 16 que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous ôtera vos opinions et il prendra ce que j'ai dit et vous le révélera. Mais bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, les apôtres et les prophètes se tenaient sous la directe inspiration et conduite du Saint-Esprit. Et l'onction sainte et divine se reposait sur eux. C'est pour cette raison qu'ils étaient consacrés à Dieu par l'onction qui était sur eux pour porter la parole de Dieu et nous la transmettre. Les pères des églises étaient d'autres sortes de personnes. Ils sont d'abord venus des pays païens et ils n'avaient pas de révélation et ils n'avaient pas d'accès à la parole de Dieu. Ils ont en grande partie mis de côté l'Ancien Testament et ils ont interprété et n'ont pas compris le Nouveau Testament à cause de leurs interprétations. C'est pour cette raison qu'ils sont allés dans leur propre chemin jusqu'aujourd'hui encore. Et nous avons réellement, dans le christianisme et dans le protestantisme, 343 différentes confessions et directions. Mais nous avons un seul Dieu, et une seule Bible, et un seul évangile, et une seule vie éternelle. Et pour aller avec Éphésiens 4, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et c'est justement dans cet état que nous devons revenir maintenant, cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et avec cela, en fait, le point trouve sa valeur. Que nous devons comprendre que nous serons toujours incompris de tous, mais nous, ils ne nous comprennent plus, justement parce que nous croyons à la parole de notre Seigneur telle qu'elle nous a été transmise dans la parole de Dieu. Et ils mettent, vous voyez, la parole du Seigneur de côté et ils restent dans ce qui a été inventé et formulé et prêché dans le 3e et le 4e siècle. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas ici pouvoir nous approfondir dans ces choses. C'est seulement pour le mentionner encore une fois. Celui qui vraiment veut se tenir devant Dieu ne peut pas croire comme une église l'enseigne, car chaque église enseigne autre chose. Et chaque église prétend enseigner de la bonne manière et de la manière juste. Nous sommes alors obligés de prendre entre nos mains la parole du Seigneur et pour comparer, comme dans Actes chapitre 17, verset 11, si ce qui est enseigné est exact avec ce qui ont enseigné les prophètes et les apôtres. Car le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, a dit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, Jean 6, verset 16 et 17, mais de celui qui m'a envoyé. » Tel, c'est ainsi que aujourd'hui encore, cela doit rester. Notre enseignement ne vient pas que ce soit de nous ou encore d'un concile ou alors d'une église ou bien d'une assemblée ou bien d'une communauté, mais notre enseignement vient de Dieu, tel que dans la parole de Dieu, il nous a été transmis. Et avec cela, nous ne nous glorifions pas. Nous donnons seulement le droit de croire comme le dit les Saintes Écritures. Et c'est seulement comme ça que la lumière nous sera accordée sur la signification de la parole de Dieu, comme dans Jean 12, nous l'avons lu. Ici, il est écrit au verset 35 et 36, encore les choses suivantes. Jean, chapitre 12, verset 35 et 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Car c'est ainsi que le Seigneur a parlé. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Mais aura la lumière de la vie. C'est ainsi que le Seigneur a parlé. Celui qui me suit, qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Il se renie à lui-même et me suit. Et ensuite, Paul écrit aux Galatiens, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas moi. Pas une vie religieuse, mais la vie de Dieu en nous. La vie éternelle. C'est ainsi que nous l'avons entendu. Le commandement est lié avec la vie éternelle. Jean 12, verset 50. Et nous pouvons à cela lire deux versets bibliques. Les premiers dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et avec ce verset, nous devons directement aller à 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, versets 19 et 20.
Wir wissen, dass wir aus Gott sind.
Nous savons que nous sommes de Dieu. Jean, la première épître de Jean, verset 5, au chapitre 5, au verset 12, au verset 19. Nous pourrions dire, nous savons, apôtre Jean, que tu étais un disciple du Seigneur et que tu étais assis et que tu te couchais sur la poitrine du maître, mais que tu te rends si orgueilleux comme les gens pourraient le dire. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quelqu'un dira, comment tu oses dire une telle chose? Si aujourd'hui quelqu'un dirait ça, nous savons que nous sommes de Dieu.
Oh,
mais pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que nous avons reçu sa semence. La parole est la semence. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Dans Luc, dans Matthieu 13 et aussi dans Luc. Dans Marc 4 et dans Luc 8 au verset 11. La parole est la semence. Luc 8 au verset 11. C'est seulement de quelque chose de divin que quelque chose de divin peut sortir. Et c'est ainsi que la parole est d'origine divine. Elle est la substance de Dieu. Et la parole est la semence. Et c'est dans la semence que est le germe de vie. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu vient sur nous après que nous ayons reçu la parole. Et c'est ainsi que le germe est apporté à la vie. La vie qui est dans la semence, alors sort et devient visible à l'extérieur. Je ne sais pas si ici, je l'ai déjà raconté, mais en 1982, j'étais en Égypte, sur l'île de Patmos, et à l'endroit là-bas, et j'entendais réellement qu'en Égypte, il y a du blé qui a été trouvé, qui encore était, qui devait encore avoir son origine du temps de Joseph, qui avait autrefois là-bas, n'est-ce pas, utilisé les 7 années de bénédiction pour emmagasiner, pour que pendant les 7 années de sécheresse, il y ait de la nourriture pour le peuple. Et en tant que première chose, les scientifiques ont posé la question, est-ce que ce blé-là, aujourd'hui, produirait de son fruit s'il était semé? Et voilà, la réponse est même pour moi compréhensible. Et elle a été, pour que vous puissiez le savoir, il dit, écoutez, pour que vous voulez savoir si ce sera le cas, nous allons semer la semence pour voir si elle va reproduire son fruit, quoi que ce soit, si âgée, même du temps de Joseph. Et la semence qui a encore le germe de vie en elle a semé et elle a produit son fruit et elle a pu être récoltée. Et ce qui a été semé en tant que grain de blé dans la récolte, dans la moisson, a produit son fruit. Sans considérer la vieillesse du grain, il n'a pas l'importance comment est-ce que la parole est âgée. Et le germe de vie reste dans la parole. Car notre Seigneur a dit, les paroles que je vous adresse sont esprit et elles sont vie. Avons-nous cru cela et reçu vraiment la parole? Au verset 20, il est écrit dans 1 Jean le chapitre 5, au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu, en Jésus-Christ, s'est manifesté, s'est révélé. Il nous a apporté par sa grâce la rédemption. Il nous a accordé la rédemption. Dieu ainsi s'est réconcilié avec l'humanité. Et nous regardons à Golgotha. Nous regardons là-bas, là où le sang de la réconciliation, le sang de la nouvelle alliance a coulé. Et nous regardons à celui qui nous a rachetés, qui sur la croix à Golgotha a dit, c'est accompli. Mais revenons à ce qui nous touche des temps, donc court derrière nous, que ce soit pendant cette tournée que nous avons eue à Bremen, à Berlin, à Prague, à Salzbourg, à Zurich, à Böblingen, j'ai eu à le répéter, l'importance d'une parole et de lier une parole avec une autre, un verset avec un autre, d'aller de verset biblique en verset biblique. Cela ne peut pas être assez estimé et souligné l'importance de ça, d'aller de verset biblique en verset biblique. Et seulement de cette manière, c'est important d'aller de verset biblique en verset biblique, que ce soit considérant le sujet de la divinité. On doit ici vraiment aller de l'Ancien au Nouveau, et de nouveau, du Nouveau à l'Ancien Testament. C'est très important. Ça n'a pas d'importance quel sujet les Saintes Écritures traitent. Ce sont des sujets qui ne sont traités pas par un homme, mais par les Saintes Écritures. C'est peut-être raison que nous devons justement utiliser tous les versets bibliques qui traitent ce sujet pour avoir la signification. Et ici, puisque nous aurons aujourd'hui un baptême d'eau, je voudrais aussi mentionner cela. Celui qui prend seulement, par exemple, Matthieu 28, le verset 19 et 20, il a, par cela, pas encore l'ordre missionnaire. C'est vrai qu'il a l'ordre missionnaire, mais il n'a pas encore l'ordre complet dans son entièreté. Où, par exemple, le Seigneur a dit, il a seulement cette partie où le Seigneur a dit, allez dans le monde entier et faites de tous les peuples des disciples et enseignez-les à garder ce que j'ai prescrit. Et ensuite, l'ordre de baptiser dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de baptiser dans ce nom au singulier. Pour que nous puissions savoir quel est le nom, nous devons continuer à aller dans les Écritures. Nous devons repartir à Luc chapitre 1, à Matthieu chapitre 1. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui, selon le psaume 30, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on peut faire encore un pas de plus. Alors que Dieu le Seigneur, dans l'Ancien Testament, avait fait l'alliance avec Israël, voulait faire l'alliance avec Israël, il a dans Exode chapitre 6 révélé son nom, J-H-J-A. C'est de cela que le nom Yahvé a apparu, ce qui signifie l'Éternel qui existe par lui-même, en lui-même, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. Il a besoin de personne pour exister, comme nous avons eu besoin de nos parents pour venir sur moi. Mais lui, il n'a eu besoin de personne pour exister. Il existe de lui-même depuis l'éternité et l'éternité. Le grand je suis, et le grand je suis a dit, je suis celui qui suis, je suis celui qui sera et qui demeure éternellement. C'est ainsi que nous avons le prophète Ésaïe, d'une manière particulière aussi, en commençant avec le chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, où notre Seigneur, toujours de nouveau, en tant que le je suis, je suis, je suis, je suis. Cette fois, dans l'évangile de Jean, le grand je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis l'alpha et l'oméga, jusqu'à Apocalypse. Donc, si nous considérons Matthieu 28 et que nous lisons ce verset, nous avons donc la compréhension d'aller de l'avant, c'est-à-dire à Marc 16 aussi, où il est dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser. Alors, pas seulement de parler du baptême. Il n'est pas seulement ici de parler du baptême dans Matthieu 28, comme dans Matthieu 28 et de l'enseignement que nous devons porter. Mais dans Marc 16, il a aussi compris que ceux-là qui se laissent baptiser doivent être devenus d'abord croyants. Et alors on comprend que c'est important avec l'ordre missionnaire de ne pas rester à Matthieu 28 mais d'aller dans Marc 16, et ça nous fait comprendre qu'ici il n'est pas possible de faire cas d'une aspersion de quelques gouttes qu'on met sur le front, non, la foi est nécessaire, tout le reste c'est de la tradition. Un enfant, un petit, un nouveau-né ne peut pas croire. C'est peut-être la raison que le Seigneur nous a fait sortir réellement des traditions qui ont annulé en fait la parole de Dieu. Il nous appelle à sortir de tout cela, comme dans Marc 7 au verset 7, vous avez, à la place de la parole, établi des doctrines et des traditions qui ont annulé la parole. Mais tout cela, en fait, c'est justement une adoration que vous apportez en vain. Vous m'adorez et vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Car vous avez fait pour les traditions d'hommes la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il s'agit d'entendre la véritable parole et l'enseignement des Écritures pour pouvoir prétendre croire. Et ensuite, dans Marc 16, au verset 16, nous comprenons ici, tel que notre Seigneur dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser, c'est celui-là qui sera sauvé. Ensuite, on peut aller ensuite dans Luc chapitre 24 au verset 47 où il est écrit que en son nom le pardon des péchés sera prêché à tous les peuples. Alors ici nous voyons de nouveau encore un autre angle de l'ordre missionnaire. Et avec cela, ça ne suffit pas, ce n'est pas encore complet. Nous devons aller dans Jean 20, le verset 21 jusqu'au verset 23 où notre Seigneur adresse cette parole à ceux qu'il avait appelés, à ceux qu'il a envoyés, à ceux qui pendant 40 jours ont été enseignés par lui après sa résurrection, à ceux qu'il envoyait. C'est à eux qu'il a dit, tel que le Père m'a envoyé, c'est ainsi que je vous envoie. Et ensuite, le verset 23 de Jean 20, celui qui a été d'une manière si grave, incompris, parce que justement, il a été comme ça interprété sans prendre un autre verset à cela. Et cela pas en relation avec tous les autres versets, mais ils ont pris seulement Jean 20, verset 23, et ils l'ont considéré seul et ils l'ont interprété. Celui à qui vous pardonnez les péchés, ils sont pardonnés. Et ceux à qui vous ne pardonnez pas les péchés, ils ne seront pas pardonnés. Ce verset doit obligatoirement, et avec tous les trois autres, être placé dans les Saintes Écritures. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Celui qui croit et se laisse baptiser sera sauvé. Et ensuite, que en son nom, le pardon des péchés sera prêché à toute la création. Avec ces quatre témoignages de l'ordre missionnaire, si le pardon des péchés est lié à la prédication du pardon des péchés, alors je ne peux pas simplement comme ça aller établir un siège pour se confesser et à dire aux gens, venez vous confesser, je vous pardonne. Non, le pardon des péchés est lié à la prédication de la parole de Dieu. Alors il faut que d'abord je prêche le pardon du péché. Ensuite, la foi vient de ce qu'on a entendu. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru notre prédication? C'est ainsi que c'est écrit dans Romains, le chapitre 10. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend et la prédication vient de la parole de Dieu. Ensuite, c'est ainsi qu'on peut utiliser ici Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons utiliser Marc 16, verset 16. Et avec ces quatre témoignages de l'ordre missionnaire, nous allons ensemble avec cela dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, où Pierre, lors de le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, sous la directe onction et conduite et inspiration du Saint-Esprit, a tenu la première prédication. Là, tout est contenu. Repentance, foi, pardon, baptême. Pierre a par la prédication apporté aux hommes l'offre divine du pardon de leurs péchés. Et ensuite, toute la foule réunie, il leur a dit, si vous croyez à la prédication du pardon de vos péchés, alors vos péchés sont pardonnés par la puissance de l'œuvre de la rédemption. Et le même Pierre aurait pu utiliser cette deuxième phrase. Vous qui ne croyez pas à la prédication du pardon des péchés, vous ne pourrez pas expérimenter votre pardon, aussi longtemps que cela me fait mal au cœur, votre pardon, vos péchés demeurent parce que vous ne croyez pas. Et avec cela, nous devons aller dans l'évangile de Jean. Si vous ne croyez pas que je le suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, au verset 24. On doit alors aller toujours de verset biblique en verset biblique. Si on parle de la foi, du baptême, si on parle et qu'on place le fondement de la foi pour l'Église du Nouveau Testament, on doit revenir à l'original. Et Pierre a dit à haute voix, dans toute la foule, répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela pour le pardon de vos péchés. Les péchés nous sommes pardonnés par le sang de l'agneau. Mais tous ceux qui, dans la foi, ont accepté le pardon de leurs péchés, font l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu et ainsi se laissent baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ils savent qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'offre est encore donnée à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement, s'il vous plaît. Recevez cela dans votre cœur. Le monde entier est plein de d'hommes croyants. Les musulmans sont croyants. Les juifs sont croyants. Les chrétiens, le christianisme, c'est bon, tous sont croyants. Et même les bouddhistes aussi croient et tous croient. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est cru. Il s'agit de croire Dieu, de croire la parole. Dieu et cela dans sa forme, la parole de Dieu et cela dans sa forme originale, telle que le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 7, au verset 37 et 38 disait, celui qui croit en moi, comme le dit les Saintes Écritures. Jean 7, verset 37 et 38, pas comme une religion dit, pas comme une assemblée, une église, une confession, une communauté, mais tel que Dieu dans sa parole nous l'a commandé, nous l'a ordonné. Ça, c'est seulement la parole de Dieu qui a sa valeur devant Dieu. Et encore, pour montrer comment est-ce que c'est difficile quand des versets bibliques de leur contexte sont déchirés, ou bien alors que des versets bibliques sont sortis de leur contexte, ou alors ne sont pas liés à d'autres versets pour avoir la signification. Pensez à la parole de notre Seigneur dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, par exemple. Ici, notre Seigneur a fait une phrase très importante dans Jean, le chapitre 5, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gardons cela devant les yeux. Ici, il ne vient plus au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lisons à cela dans Romains, le chapitre 14. Romains, le chapitre 14. Et ici, au verset 10 et 11. Romains 14, verset 10 et 11. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Et maintenant arrive. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc, il y a un verset qui nous dit, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement, et l'autre dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Romains 14, verset 10. Lisons encore un verset dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ici, l'apôtre s'est inclus lui-même. Et ça, il le fait aussi dans son témoignage. Dans 2 Timothée, le chapitre 4. Dans 2 Timothée, le chapitre 4. Je lis cela simplement à cause de la raison suivante. Pour que nous puissions savoir comment est-ce que c'est important de en ce qui concerne chaque verset biblique et chaque thème biblique et chaque parole de Dieu, de considérer cela de verset en verset pour vraiment savoir la signification de ce que nous lisons et que ce ne soit pas que nous représentons et pas ce que nous nous représentons en lisant ce que nous lisons, mais les représentations peuvent être différentes quand chacun lit. Mais ce que le Seigneur nous donne comme signification est la même chose. Dans 2 Timothée, chapitre 4, peut-être ici les versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son avènement. Ici alors, nous voyons que tous ceux qui prendront part à la première résurrection, ceux-là apparaîtront aussi devant le trône du Christ. Mais ils ne seront pas jugés au dernier jugement final où les livres seront ouverts dans Apocalypse et que tous les morts ressusciteront. Et que Dieu va juger selon ce qui est écrit dans les livres. Et quand le tribunal, le jugement, la décision finale sera donnée. Les uns iront dans la vie éternelle et les autres dans la perdition. Alors on doit savoir, quand notre Seigneur dit « Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie et qui ne vient pas au jugement, pas au jugement final d'Apocalypse où on doit trembler pour savoir comment est-ce que on va en sortir, mais il apparaîtra devant le tribunal du Christ où il n'y a pas de condamnation qui est possible là. Il n'y a pas de condamnation possible là. Parce que ici, il n'y a pas de chose condamnable à ceux qui sont en Christ. Mais ici, il sera donné la récompense. Les couronnes seront distribuées. La récompense aura lieu. La fidélité sera récompensée. Et là, il y aura la couronne. Notre Seigneur, qui a lui-même porté la couronne d'épines, nous donnera la couronne de la vie, la couronne de l'honneur, la couronne de la justice. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un jour de couronnement pour les véritables églises du Dieu vivant. Nous ne serons pas seulement, nous irons pas comme ça seulement dans la gloire. Le Seigneur va même nous récompenser et il va récompenser toute la fidélité. Car ça, il vient avec sa récompense. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Il vient avec sa récompense. Nous lisons cela pour que nous ne soyons pas comme ça dans l'attente et en nous posant la question est-ce que cela est vraiment écrit comme ça ou pas. Mais allons par exemple dans 1 Pierre chapitre 5. Dans 1 Pierre chapitre 5, ici l'apôtre écrit concernant ce qu'il attend. Et vous savez que Pierre était l'un des apôtres du Seigneur à qui l'ordre et le commandement avait été attribué et qui avait tenu la première prédication ici, dans 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 4, il est écrit: et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Couronne incorruptible de la gloire. Et c'est seulement après que nous lisons la parole dans Apocalypse, le chapitre 2, Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Maintenant, suis l'ordre. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, si nous apparaîtrons devant le tribunal du Christ, ce n'est pas pour être condamné et pour être rejeté. Ça, je le répète encore. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit, c'est-à-dire qui sont en Christ, une nouvelle création. Notre condamnation a été portée une fois pour toutes par le Rédempteur. Toute la malédiction était placée sur lui. La condamnation, le châtiment de notre paix a été placé sur lui pour que nous ayons la paix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est pour cette raison que Paul écrit dans Romains, le chapitre 8, celui qui peut condamner les élus de Dieu, Christ est là, qui les justifie. Romains 8, les versets 35, je crois. La justification n'est pas seulement un enseignement biblique. La justification est une expérience biblique. Une expérience que nous faisons avec Dieu et qui ensuite nous pouvons dire, c'est seulement après que nous pouvons dire comme Paul a dit dans Romains chapitre 5, le premier chapitre. Alors, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 49. Il est venu pour apporter la paix à ceux qui sont près et la paix à ceux qui sont loin. Et ensuite, nous prenons cette parole dans Éphésiens, le chapitre 2, que Dieu a ôté le voile, même le voile qui séparait les Juifs avec les nations. Il a ôté le voile, il a ôté la séparation, l'inimitié. Et en Christ, il nous a réconciliés les uns avec les autres. Et il a ôté toutes nos fautes. Et il nous a fait grâce et accordé la vie éternelle par sa grâce. Mais ensuite, quand l'achèvement viendra, nous apparaîtrons devant le tribunal du Christ. Et ça, je vous donne l'assurance que tous ceux qui prendront part à l'enlèvement et qui ainsi prendront part à la première résurrection appartiennent au troupeau des vainqueurs. Et là, il n'y a rien à craindre. Celui qui entre dans la gloire n'a rien à craindre. Il y a seulement une seule chose qui, selon Matthieu, chapitre 25, non, pardon, Matthieu 22, car dans Matthieu 25, il est dit, tous ceux qui furent prêts entrèrent dans le repas de noces, mais celui qui va dans Matthieu 22 constate que le Seigneur, subitement, doit dire aux uns: ami, comment est-ce que tu es rentré ici? Et cela, c'est justement celui qui maintenant encore peut nous accuser, qui jusqu'à la dernière heure ne va pas abandonner de le faire. Il va encore accuser, même encore dans Apocalypse chapitre 12. Il se tient là dans le chemin à un moment où le Seigneur élève les siens. Alors il y a ce grand combat dans les airs. Et là, il ne se rend pas satisfait. Il peut bien sûr, il ne peut pas bien sûr, c'est vrai, entrer par la porte, mais il rentre par la fenêtre et il n'a pas de vêtements blancs. Il a encore accès pour nous accuser. Mais ensuite, l'accusateur des frères sera projeté dehors. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse, le chapitre 12. Et aussi, avec cela, on doit aller du verset biblique. Les gens ont interprété ce verset où il est dit, qu'est-ce que tu fais ici sans vêtements? Hein? Même le mot ami. Et comment les gens ont interprété? Même le Seigneur a appelé Judas ami dans Jean 13. Ami, qu'est-ce que tu as l'intention de le faire? Fais-le bientôt. Car Satan était entré dans Judas. Entré dans lui. Alors, ami, comment est-ce que tu es venu ici? On doit toujours aller de verset biblique. Je vous le dis, je le répète encore. Nous devons souligner cela. Avec Matthieu 22, nous devons aller dans Jean 13 et dans Apocalypse 12, chercher les parallèles, les versets parallèles, pour savoir qui est cet ami qui était ici sans vêtements et qui a été précipité dans Apocalypse 12. C'est important de comprendre la signification de ce que nous lisons. Aussi en ce qui concerne la divinité, le baptême d'eau, le souper du Seigneur. Celui qui, par exemple, parle, qui veut parler du souper du Seigneur, il doit d'abord avoir lu Jean 6 et il doit être reparti dans Exode et il doit savoir ce que signifie le mot manne, ce que a signifié la manne. C'est seulement après qu'il peut venir dans Matthieu 26 et dans d'autres versets, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et ensuite dans 1 Corinthiens chapitre 11. On doit, avec chaque thème biblique, aller de verset en verset. C'est trop important. On ne peut pas assez insister ici pour pouvoir laisser Dieu lui-même dire ce qu'il veut dire et accorder la lumière sur chaque sujet, et cela de tous les angles, pour que réellement, il n'y a aucun angle qui reste obscur et que la lumière de la parole, le Orim Toumim, puisse briller. Et que nous pourrions alors porter en tant que porteral pour prêcher la parole. Donc, répétons, selon Matthieu 24, verset 14, et Apocalypse 14, verset 6, il faut qu'avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'Évangile éternel, pas seulement, l'importance n'est pas seulement mise sur la prédication de l'Évangile, mais ici, l'importance est placée sur l'Évangile éternel ou bien du royaume éternel, demeurant éternel. Les paroles de Dieu sont éternelles. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Et ensuite, nous pensons ici à 2 Corinthiens, le chapitre 11, où Paul, dans ses soucis en ce qui concerne l'Église, l'état de l'Église, a dit, je crains que tel que le serpent a séduit Ève, c'est ainsi que vous aussi, dans vos pensées, vous êtes séduits. Et ensuite, il continue dans 2 Corinthiens 11 et il écrit que certains prêchent un autre Christ, un autre évangile, un autre Jésus, parce qu'ils ont reçu un autre esprit. Cela est à lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et ensuite, le contraire. Tous ceux qui ont reçu un autre esprit prêche et pratique un autre évangile. Aussi dans la pratique, c'est un autre évangile qu'ils vivent. Et tous ceux qui ont reçu le véritable Saint-Esprit prêchent le même évangile que a prêché Paul et les apôtres. Car le même Jésus-Christ, ils expérimentent le même Jésus-Christ, ils ont le même baptême. Tout reste tel que c'était au commencement. et aussi dans la pratique. Et c'est ainsi que tout sera restauré et rétabli, car c'est ce que Dieu veut atteindre avec l'Église, rétablir toutes choses. Et c'est ainsi que nous devons déjà depuis le commencement, par notre décision. Ici, il ne s'agit pas de devenir membre d'une assemblée ou bien de devenir membre d'une confession ou bien d'une communauté. Ici, il s'agit que nous puissions consciemment nous mettre du côté de Dieu et que nous puissions donner en tout sujet, seulement donner raison à Dieu. Et nous pourrons seulement donner raison à Dieu si nous allons de verset en verset. Et nous pourrons seulement aller contre les doctrines si nous allons de verset en verset. Et c'est ainsi que nous comprenons que c'est Dieu qui ainsi pourra parler avec nous de face à face. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je crois réellement que le Seigneur, dans une telle clarté par sa parole, parle avec nous. Et pourquoi ? Parce que justement, par le Saint-Esprit, cela nous a été expliqué et révélé. Nous n'interprétons pas un verset, mais nous allons de verset en verset et d'évangile en évangile. Et des évangiles, de l'exposé des évangiles, nous allons aux actes des apôtres, de l'acte des apôtres, nous allons aux lettres des apôtres, et avec les lettres des apôtres, nous allons aux prophètes. C'est ainsi que nous avons un témoignage fondé sur trois personnes, au moins, ou bien sur trois versets. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 13, par exemple, et dans Jean 8 aussi, que tout doit reposer au moins sur deux ou trois témoins. Et en ce qui concerne le baptême d'eau, par exemple, Pierre était à Jérusalem. Le deuxième, Philippe, était en Samarie. Le troisième, Paul, était à Éphèse. Juifs, Samaritains et païens. Les trois témoignages. C'est ainsi que les trois sont devenus croyants et tous, les trois se sont laissés baptiser publiquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les païens, les Samaritains et les Juifs. Et les trois témoins ont leur valeur. Chacun qui a assez de compréhension et qui est normal et qui est devenu croyant, il ne va pas comme ça essayer de discuter avec Dieu et de dire, oh oui, peut-être que Pierre s'était trompé, peut-être que Paul s'était trompé, peut-être que Philippe s'est égaré. Non, ce sont les pères des églises qui se sont trompés, qui sont égarés. Ce sont les églises qui se sont séduites et trompées. Ici, nous avons la parole de la vérité, la parole des premières heures. Et ça, je le répète encore une fois, nous ne croyons pas ce que les pères des églises ont dit, car ils ont parlé contre ce que les prophètes et les apôtres, au nom du Seigneur, avaient dit. Ils ont parlé au nom du Seigneur. Ils ont parlé en harmonie avec ce que le Seigneur avait dit. C'est important de croire et de se mettre du côté de Dieu et de donner raison à Dieu et de respecter sa parole et de fléchir déjà maintenant nos genoux et de dire, Seigneur, parle encore, continue à parler, je suis prêt à écouter, je suis prêt à accepter, à recevoir, je suis prêt à faire, à mettre en pratique ta parole. Encore un verset dans Hébreux chapitre 10. Où l'homme de Dieu représente cela devant les yeux, qui simplement est très important. Dans Hébreux, le chapitre 10, au verset 14. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Hébreux 10, verset 14. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela nous ramène à Jean 17, verset 17, et aussi chapitre, verset 19. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Je me sanctifie pour eux, pour que eux aussi, dans la vérité, soient sanctifiés. Et cela doit maintenant à nous et par nous devenir vrai, tel que le Fils de Dieu était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi qu'il a mis fin à la désobéissance d'Adam et il a établi pour nous l'obéissance. Et c'est ainsi que tel que Ève avait manqué d'observer la parole de Dieu et que et l'adversaire l'a reçu sous son influence. C'est ainsi que Dieu a élu Marie et il a mis en elle sa semence et il l'a couverte de son ombre par le Saint-Esprit et pour réparer les dégâts qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est pour cette raison que Christ, le dernier, est devenu le dernier Adam et que tout tel que tous meurent dans le premier Adam, c'est ainsi que tous en Christ, le dernier Adam, reviennent à la vie. Bien-aimés frères et sœurs, ça ce n'est pas une histoire, ça c'est l'histoire du salut. Ça, c'est ce que Dieu, en accord avec son plan du salut dans l'Église, fait. Et comme déjà cela a été mentionné, à la fin du temps de la grâce, il nous appelle réellement à de sortir de toute la confusion et le désordre. Pourquoi ? Premièrement, parce que nous appartenons à son peuple. Parce que nos oreilles reçoivent et acceptent ce qu'il a à nous dire. Et la deuxième chose, c'est à cause du respect et de la crainte devant la parole de notre Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pas une sagesse comme ce monde l'enseigne, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et ensuite, il est écrit que notre Rédempteur a été fait pour nous. Sagesse, rédemption et sanctification. Tout en tous. Nous avons tout en lui. Lui, le Rédempteur, il a pour tous les rachetés pris soin. Bien-aimés frères et sœurs, nous pourrions continuer à nous approfondir dans ces pensées merveilleuses de Dieu. Mais pas seulement des pensées, mais des pensées qui sont exprimées par Dieu lui-même et elles deviennent une réalité. Aujourd'hui, nous pouvons voir Jésus parmi nous. Aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer, l'expérimenter. Aujourd'hui, les pécheurs peuvent se repentir. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Et je crois que tout ce que le Seigneur appelle entendront sa voix et ensuite s'accomplira ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Tous ceux qui étaient déterminés à la vie devinrent croyants. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, si vous voulez vivre éternellement, vous devez recevoir déjà maintenant, avoir reçu la vie éternelle. Et c'est seulement celui qui a le Fils à la vie. Et celui qui n'a pas la vie, qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Et il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et ensuite, nous pourrons dire que si je t'ai seulement, alors je ne demande pas, je ne demande plus après ceci et cela. Alors j'ai tout ce que Dieu a à me donner. Le psaume 30 et 73, les derniers versets. Si je t'ai, alors j'ai tout. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous révèle sa puissance et sa gloire. Aujourd'hui, en cet endroit, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous levons, nous chantons ce cœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Celui qui aujourd'hui veut consacrer sa vie au Seigneur, qui puisse lever sa main. Avant que nous chantions, je voudrais demander que nous puissions nous courber les têtes, ouvrir nos cœurs. Nous ressentons la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu plane, se repose sur nous. Comme au commencement dans Genèse, l'influence humaine et l'influence divine est sur nous, est manifestée, nous voyons. Nous sommes sortis de l'influence humaine et nous avons été touchés par la parole et ainsi sous l'influence de Dieu placée. Mais bien, mes frères et sœurs, n'oubliez pas cette parole de hier. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas d'accès aux choses de l'Esprit. Dieu doit, par sa parole, commencer à agir. Et si l'Esprit vient, alors il convainc d'abord du péché et de la justice et du jugement. Et encore maintenant, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Je sais, je le sais, je le ressens et nous l'expérimentons. Une sainte présence de Dieu remplit cette pièce, cette salle. La lumière a paru. Dieu a accordé sa lumière. Il a révélé son nom, révélé sa parole. Il nous prend de verset biblique en verset biblique et il révèle la parole de tous les angles. Nous sommes privilégiés aux yeux de Dieu et cela nous donne de croire, nous donne le droit de croire que nous appartenons à l'élection sur laquelle nous avons pas, on ne nous a pas demandé notre avis, mais Dieu, lui, savait, comme aussi avec Abraham, aussi certain qu'il parlerait à Abraham, il savait que cet homme-là croira ce qu'il dira. Et la même chose est aussi pour nous. Dieu a fait que parler avec nous parce qu'il sait que nous croirons et que nous allons prêter l'oreille et que nous allons mettre en pratique ce qu'il a dit. Et c'est par cela que nous prouvons que nous sommes la descendance d'Abraham, la semence d'Abraham et Abraham auquel le Seigneur a parlé, n'a pas regardé à lui ou bien aux circonstances. Il a regardé au Seigneur, au Dieu qui avait parlé avec lui en tant que l'invisible est devenu visible. Et il s'est révélé, il s'est révélé à son serviteur le prophète. C'est la même chose encore aujourd'hui avec nous. Le Seigneur est le lever du soleil et il a par sa grâce visité son peuple. Pensez, après 2000 années, la nuée et la colonne de feu, pour la première fois, de nouveau est descendue. Dans cet âge prophétique, le Seigneur, d'une manière particulière, a révélé la parole prophétique. Il a accordé la lumière et il a parlé avec nous. Combien sont aujourd'hui ici qui voudraient consacrer leur vie au Seigneur, qui voudraient faire un nouveau commencement ou bien alors faire ou bien renouveler leur alliance avec Dieu. Dans ces heures, vous pouvez prendre la décision au cas où vous ne l'aurez pas encore prise. Maintenant, il est écrit, si vous entendez sa voix, qui l'a entendu? Qui veut suivre? Est-ce que vous voulez courtement lever les mains alors que toutes les têtes sont baissées? Toujours de nouveau, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Il sauve, il guérit, il libère, il accorde le pardon et il ne se souvient plus du péché. Il dit encore aujourd'hui par le prophète Esaïe, si vos péchés seraient noirs comme le chromasi, il deviendra blanc comme la neige. Il dit aujourd'hui dans le psaume 103, lui qui te pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies, qui couronne ta vie et qui te libère de la force et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur a confirmé sa parole. Vous avez accordé la foi à la parole. La parole est venue de la Bible. Et c'est ainsi que l'Esprit a vivifié cette parole et vous accordé la foi. Combien ont d'autres difficultés et qui souhaiteraient peut-être qu'on prie pour eux? Ils ont des requêtes. Quoi que ce soit, frères et sœurs, tous nous passons par des épreuves. Et l'adversaire va nous attaquer, nous accuser tous. Mais nous avons la grâce d'utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et de mettre l'adversaire dans le coin et de dire il est écrit. Ose louer et exalter soit le Seigneur, notre Dieu, qui a, de manière pleine de grâce, visité son peuple et qui a parlé avec nous. Que tous les pays jusqu'à la Chili soient bénis, jusqu'à la Nouvelle-Zélande, où le soleil tous les jours d'abord se lève, que tous les peuples à l'est et à l'ouest, au sud et au nord soient bénis, et que le peuple de Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations soient appelés à sortir, et que l'évangile éternel soit entendu de tous, et que tous puissent croire et être préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu vivant. Alléluia. 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 Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte parole. Nous te remercions pour la réalité de l'œuvre et de l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement écrit. Nous l'expérimentons aujourd'hui en cet endroit que tu es présent et que tu confirmes ta parole et que tu sauves et que tu guéris et que tu pardonnes. Oh, loué et exalté sois-tu, toi Dieu vivant, que tu puisses avoir ton chemin parmi nous. Crée-toi de l'obéissance, un peuple obéissant, l'obéissance de la foi. Oh Dieu, oh Dieu, loué, loué, alléluia, loué soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous chantons encore une fois, tel que je suis, et nous voulons croire et faire confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore courtement, et de manière courte, certaines annonces. Nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour chaque occasion que nous avons de nous réunir et d'écouter sa parole. Nous avons au commencement d'avril, eu le jubilé, donc 30 ans d'année de ce bâtiment, et nous avons ensemble remercié le Seigneur, et la nourriture est envoyée dans à peu près 140 pays, dans 16 différentes langues, dans le monde entier, est fait, est apporté. Je voudrais aujourd'hui aussi remercier tous cordialement qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes pour que tout cela soit possible. Nous sommes très reconnaissants. Nous vous êtes très reconnaissants. Comme Paul le disait, nous sommes des ouvriers dans le royaume de Dieu. Les uns prient, les autres prêchent. Tous sont unis avec ce seul but que l'évangile éternel du royaume, en tant que dernier message divin, tel qu'il a été révélé à frère Branham et placé par lui dans le chandelier, sur le chandelier, soit apporté dans le monde entier. Car ce message doit être précurseur, vous comprenez, du retour du Christ. C'est pour cette raison que maintenant, il est apporté dans le monde entier. C'est-à-dire que moi, je vais avec d'autres frères, le frère Gilbert, le frère Didier, le frère, notre frère d'Orléans, nos frères du Congo, et d'autres frères sont en voyage, le frère d'Orléans, pour prêcher la parole de Dieu. Nos frères de la Suisse, le frère Barillier, le frère Genton, le frère Graff, d'autres frères sont en chemin pour prêcher et porter la parole et voyage. Et nous remercions tous de tout notre cœur. D'abord, c'était l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche qui avaient porté l'œuvre. Et maintenant, eux suivent les pays voisins encore. Mais l'œuvre s'est élargie et ainsi que les demandes sont plus grandes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu un manquement. Et il y a toujours eu plus que nous avions besoin. Et pour cela, nous sommes aussi reconnaissants de ce que le Seigneur prend soin de son œuvre. Et nous voulons aussi remettre des salutations à tous nos frères, en commençant maintenant de ma gauche, en Tchèque, en Slovaquie, en Italie, et en Suisse, en Autriche, en France, en Belgique, et dans les Pays-Bas. Partout, nous remettons des salutations à tous. Nos frères qui voyagent, qui entreprennent des voyages, justement, salués de notre part partout où vous allez. Nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu, les frères dans les ministères qui voyagent. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous avons aussi aujourd'hui notre frère Ngonga parmi nous. Je voudrais qu'il puisse maintenant venir devant. Pour lui, nous allons particulièrement prier que Dieu puisse le bénir. Et il va aussi de pays en pays. Il vient du Congo, maintenant de la République du Congo. Et il n'y a pas longtemps, il maîtrise la langue anglaise et nous voudrons simplement prier pour lui. Que Dieu puisse le bénir et être avec lui. Bien-aimé frère, sois la bienvenue, salue la congrégation. Parce que tu voyages de pays en pays et tu connais depuis longtemps l'anglais et le Seigneur est avec toi. Je voudrais prier pour toi pour que le Seigneur puisse te bénir particulièrement et aussi te oindre de son esprit. Je vais prier pour toi. Notre frère a aussi un programme. Il a l'intention dans la télévision et dans différentes stations de radio. Nous avons aussi notre frère ici. Lève-toi, s'il te plaît, frère. Et mais c'est un bien-aimé homme que Dieu va utiliser. Comment tu t'appelles encore bien, frère?
Stéphane
Exman. Notre frère Stéphane Exman, durant plusieurs années déjà, est parti en Amérique du Sud et il connaît bien les deux langues, l'espagnol et le portugais. Et ça, c'est très bien. Et nous te souhaitons que Dieu aussi te bénisse de manière particulière et t'utilise. C'est notre désir sincère. Dieu peut utiliser tous, qui seulement dans une quelconque langue sur terre se mettent à sa disposition. Est-ce que notre frère Gilbert aussi pourrait venir, notre frère? Les autres frères, venez aussi, les autres frères. Le frère, que nous puissions prier ensemble, le frère Gilbert, qui est encore là. Notre frère, venez, tous vous trois, venez. Oui, le frère du poste. Venez les frères qui ce sont des frères qui servent tous dans le ministère. Et vous savez, le frère Branham voulait aller en Afrique. Il disait des millions et des millions. Le frère Di Prosimo aussi, oui. Et il voyait des millions qui tendre les mains. Il voulait que le frère Branham vienne et il ne pouvait plus le faire, que vous le croyez ou pas. Alors que frère Branham était en Suisse, à Zurich, il a vu l'aigle allemand. Comment est-ce que par toute l'Afrique il volait? Imaginez-vous cela. Hein? Cela est écrit noir sur blanc. Hein? C'est écrit noir sur blanc, c'est vrai. C'est pas une story, c'est une réalité. Donc Dieu fait l'histoire et il fait tout en son temps. Maintenant le frère est là pour faire la traduction. Hein, c'est trop tard, non? C'est juste autant. Oui, oui. Mais je vais prier. Et salut avec deux mots. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que mon cœur est touché. Comment est-ce que lors de la dernière fois je disais, alors que j'étais venu, vous ne pouvez pas vous comprendre ce que vous soutenez d'ici. Et par la grâce de Dieu, je suis l'un des serviteurs fidèles dans le pays. Et nous portons la même parole de Dieu qui est la semence de Dieu. Et ce que je vous demande, c'est de prier pour nous. Que Dieu puisse unir notre grand pays pour que de la même manière nous puissions agir et travailler et que l'épouse soit aussi unie. Nous vous remercions pour vos soutiens et nous vous remercions aussi pour de ce que vous faites en sorte que nous avons le matériel, car nous avons besoin de cela pour atteindre beaucoup de nations. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il a ouvert nos yeux et pour reconnaître que Dieu, de ce que Dieu fait maintenant après que Frère Branham soit parti à la maison. Car pour beaucoup, ce n'est pas facile. Si ce n'est que vous trouvez la grâce devant Dieu comme Moïse, priez pour nous. Et aujourd'hui, nous prions pour vous. Aujourd'hui, nous prions pour toi. Frère Rousse, viens. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ce que, Seigneur, dans le monde entier, tu fais. Dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous te demandons que notre frère et tous les frères soient bénis dans l'œuvre qu'ils font pour toi. Bénis aussi nos frères du Brésil, notre frère du Brésil, ou bien de l'Argentine. Bénis-le, sois avec lui. Bénis tous ceux qui portent ta parole. Bénis tous ceux qui écoutent ta parole. Bénis tous ceux qui croient ta parole. Et que tu puisses te révéler à chacun. Que ton nom soit loué et exalté, élevé et adoré, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant te soit béni et que l'onction de cet esprit soit sur toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir rapidement. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de temps parce que les montres n'ont pas besoin d'être avancées. Cela a déjà eu lieu. Qui veut se laisser baptiser? Faites-le, frère Rousse. Faites-le. Oui. Oui, loué soit le Seigneur pour les paroles de Dieu merveilleuses que nous avons aussi ce matin entendues dans nos cœurs et reçues. Et je pense que nous allons les remuer dans notre, les ramener dans notre mémoire et dans notre cœur comme Marie l'a fait. Je crois que le Seigneur ce matin a parlé avec nous. Et je crois que si nous n'estimons pas la parole, nous n'estimons pas Dieu non plus. Car nous savons qu'il est la parole. Car celui qui garde ma parole est celui-là justement qui m'aime, a dit le Seigneur. Et nous aimons sa parole. Et nous estimons sa parole. Et nous estimons aussi le messager par lequel il a parlé. Et ça, nous sommes heureux et reconnaissants. Nous voulons dire que le voyage d'Israël aura lieu. Et je ne sais pas combien sont ici qui voudraient aller. Mais je crois qu'il y en a plusieurs ici. Et moi, de mon côté, je voudrais vous souhaiter les bénédictions de Dieu. Aussi le frère Franck particulièrement. Il connaît bien Israël. Et je crois que le Seigneur va vous bénir richement. Oui, j'étais 4 fois et j'ai eu une grande bénédiction à chaque fois. Et je crois que la bénédiction se repose sur son peuple d'Israël. Même s'ils sont affligés, mais ils se reposent sur son peuple. Et nous sommes liés avec son peuple. Et nous estimons son peuple et aimons son peuple. Et nous ne pouvons pas haïr ce que Dieu a aimé et ce que Dieu aime. Non, nous aimons Israël et je pense aussi que eux aussi, ils aiment tous ceux qui les aiment et qui aiment le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Oui. Frère Franck, tu voulais encore dire quelque chose? Oui. Encore cette remarque. J'ai appelé courtement en Israël pour être exact à Golgotha, là-bas où la tombe est. Et les gens nous connaissent déjà. Et la dame disait, Frère Franck, cette fois-ci, nous voulons vous proposer le souper gratuitement. Cette fois-ci, nous pourrons là-bas, dans ce beau jardin, donc un pain et une coupe. Nous pourrons faire le souper du Seigneur. Elle a dit, ce sera une coupe et il y aura un pain comme cela est préparé pour la Pâque. C'est merveilleux de ce que aussi ils nous ont serrés dans leur cœur. Et nous les avons aussi serrés dans notre cœur. Et nous n'avons rien à faire avec le business. Mais notre contribution n'est pas seulement la prière, mais aussi le voyage contribue au tourisme là-bas pour aider un peu le peuple et aussi à nous servir en ce que nous visitons le pays de la Bible. Beaucoup qui étaient déjà là-bas veulent encore repartir. C'est dommage de ce que ce n'est pas toujours. Le porte-monnaie ne le permet pas parfois, mais peut-être que la prochaine fois, ça aura eu lieu. Priez pour nous et nous sommes liés ensemble dans le Seigneur jusqu'à la prochaine fois. Celui qui, au mois, à la fin de ce mois, peut aller en Bratislava, peut aller. Nous aurons Zurich, nous avons de nouveau le premier week-end ici. Ensuite, il y aura l'Afrique et c'est ainsi que cela continuera. Frère Rousse, appelle ceux qui veulent se laisser baptiser. Oui. Ceux qui veulent se laisser baptiser, venez s'il vous plaît maintenant. Et nous voulons courtement prier pour vous ici. S'il vous plaît, venez devant. Nous chantons entre-temps, toujours fidèle à Jésus. Viens devant et les autres se lèvent. Oui. Le frère Kupfer, oui, vous parlez le français, s'il vous plaît. Venez à droite, oui. Vous parlez l'anglais.
Ok.
Bien, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes venus devant, pour vous laisser baptiser, ne vous connaissons pas, lui il vous connaît, et vous avez consacré votre vie au Seigneur, vous avez accepté sa parole, et vous avez pas seulement consacré votre vie, mais vous avez aussi reçu la vie du Seigneur. Vous êtes devenu consciemment croyant, bibliquement. Ma sœur, tu parles le français ou bien l'allemand? Le français. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez du côté des Français. Oui. Merci. Merci. Vous deux, vous parlez l'allemand? Oui. L'anglais, vous préférez l'anglais? Non. Persisch. Oui. Bon, c'est très bien. Donc, que Dieu bénisse nos deux frères ici de l'Iran. De l'Iran, que Dieu vous bénisse. Très particulièrement. Oui, international. Oui, ça, on peut vraiment le dire. L'ex-Perse. Et vous aussi, vous avez consacré votre vie au Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cela. Et aujourd'hui, vous avez pris cette décision de vous laisser baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons ensemble prier et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée, pour le pardon et pour le salut que vous avez reçu et accepté. S'il te plaît, dis encore quelques mots. Je voudrais simplement dire que le frère Schmidt va entreprendre le baptême. Je voudrais vous demander de ne plus rester. Le frère Schmidt va aller devant vous pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous devez le suivre. Oui, viens, frère Schmidt, viens. Viens tout de suite devant. Oui, d'accord. Alors nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité, de ce que tu parles encore à des hommes et que des hommes entendent, veulent encore entendre ta parole et te servir fidèlement toute leur vie tant qu'il y a du souffle en eux. Accorde-leur ta grâce, Seigneur, partout où tu les as placés, à leur place, que tu puisses être avec eux et les conduire et les diriger par leur jour quotidien jusqu'à qu'ils passent de la foi à la vue. Nous te les remettons et nous savons que tu es plein de grâce et de miséricorde et tu accorderas au-dessus de toute mesure. Loué et exalté soit ton merveilleux nom de Jésus. Béni lors du baptême, je te le demande dans ton saint précieux nom de Jésus. Amen. Amen.